Scarpe Ciné, séquence 11. Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarpe Sensé, ça tourne.
Et action!
Bonjour à tous, c'est Scarpe Ciné sur Radio Scarpe Sensé. Dans cette émission, je vous parle d'un film événement qui sortira en 2022, le 16 mars plus précisément. Tournée pour vivre, c'est le documentaire de Philippe Azoulay. Il filme Claude Lelouch comme jamais dans un très beau portrait de créateur. Un voyage inédit, une aventure artistique et une expérience humaine à découvrir dans quelques instants. Une autre expérience cinématographique, c'est le Top Flop Corn de Carole et elle nous attend en studio en troisième partie d'émission. Et tout de suite, rencontre au Arras Film Festival avec Philippe Azoulay pour parler du documentaire Tourner pour vivre.
Tapis rouge, sur les sorties, dans les salles obscures.
Nous sommes avec Philippe Azoulay, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter cette interview et quelques minutes de votre temps pour parler de votre film Tourner pour vivre. On peut décrire en disant que c'est une immersion dans la tête d'un créateur.
Totalement. Dans la tête et dans le sang ou dans les veines d'un créateur. Essayer de comprendre qu'est-ce qui fait courir et qu'est-ce qui anime un créateur et de partager avec lui les galères, les échecs, les difficultés, les défis et d'essayer de comprendre ce qui est a priori inexplicable, c'est ce qui se passe dans la tête de tous ces gens, qu'ils soient musiciens, cinéastes, écrivains, acteurs, pour essayer de partager leurs sentiments, leurs obsessions, leurs folies, leurs passions avec le grand public. Et nous, on entend des musiques finies, on voit des films finis, on voit des pièces de théâtre, mais on ne sait pas forcément d'où vient l'envie et toutes les difficultés qu'ils ont dû affronter pour publier, pour sortir un film, pour le fabriquer.
Ce créateur, c'est Claude Lelouch. On connaît ses films, évidemment. Là, vous plongez dans ces trois années de sa vie où vous avez dit au cours du film hier où il y a une vague un peu creuse et il va tenter de revenir aussi sur le grand écran avec trois films. Pour lui, c'est les trois films les plus importants de sa vie et vous allez être à ses côtés. Est-ce que vous pouvez nous parler tout d'abord de votre rencontre avec Monsieur Claude Lelouch?
Au départ, on voulait faire trois. L'idée était de tourner pendant trois ans dans la course folle qu'il voulait faire pour faire trois de ses meilleurs films en trois ans. Mais en vérité, le film, à l'arrivée, le tournage s'est écoulé sur pratiquement neuf années. Et donc, c'est ce qui n'était pas prévu au départ. On n'est pas sur trois films, mais sur sept films, sur 10 ans. On s'est rencontrés en 2012 et puis il m'a dit son envie de faire, alors qu'il était d'un âge avancé déjà, de faire trois films en trois ans et puis de faire ses meilleurs films. Et tout de suite, ça m'a paru comme une évidence que c'était un défi irrationnel et dingue que de vouloir faire en un minimum de temps mieux qu'auparavant. Et je me suis dit, quelle que soit l'issue de ton défi, ça mérite une histoire qui soit autant sur le plan physique que sur le plan artistique, intellectuel. Et puis cette aventure s'est transformée en quelque chose qui s'est développé. C'est mon odyssée à moi et à lui. Et en fait, sur pratiquement 10 ans, on suit 7 de ses films où il cherche à repousser les limites physiques, les limites artistiques. Et puis surtout, encore une fois, on découvre toutes les difficultés, tous les obstacles et tous les défis auxquels doit faire preuve et faire face un créateur. Et que ce soit l'échec commercial d'une œuvre, les difficultés techniques, les difficultés humaines, les défis narratifs. Enfin voilà, je ne vais pas spoiler le film, mais
Vous montrez très bien qu'avant d'être un film, c'est une idée, et puis après ça se construit avec des acteurs, avec forcément un réseau d'acteurs fétiches de Claude Lelouch. Et puis, c'est aussi les reconnaissances, c'est aussi le tournage. Enfin, on voit vraiment l'idée d'un créateur et la création.
Oui, là, l'objectif était de raconter ce défi, d'en faire un film qui soit un vrai divertissement et pas un documentaire où les gens viennent témoigner et puis se congratuler, de montrer vraiment, d'être près de l'os et de montrer, comme dans un film d'action, les choses, et de comprendre tous ces process et d'essayer de comprendre ou d'exposer du moins toute cette partie invisible qui est celle, mais qu'on pourrait comparer à une histoire d'amour. Un homme et une femme se rencontrent, et puis comment expliquer qu'ils ont un feeling l'un pour l'autre. Et puis si on regardait les histoires d'amour avec un peu de recul, on s'aperçoit qu'il y a des moments difficiles, il y a des moments de rupture, il y a des moments, voilà, ce n'est jamais une continuité, la vie. Et là, c'est le défi pour moi était de capter ces enjeux, ces difficultés, et de les traduire et d'essayer de les mettre en image en faisant un film divertissant, encore une fois, j'insiste, parce que vraiment je l'ai conçu comme une fiction, avec des flashbacks, avec des flash-forward, on avance, on accélère, on ralentit, et les gens ne sont pas, encore une fois, devant vous, interviewés dans un fauteuil à parler, ils vivent l'action, comme des personnages de fiction.
Filmer le filmeur. Claude Lelouch adore filmer le présent, du coup, au tournage. C'était le but, c'était aussi de tout filmer, vraiment toutes ces actions, ces discours, pour essayer de capter le plus possible le présent et aussi l'esprit de Claude Lelouch.
C'était pas tant de capter, de tout filmer, parce que je ne voulais pas faire un making-of, et qu'on en a vu plein des making-of de films à chaque fois, en place, silence, moteur, action, clac, 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 explosion. Là, vraiment, j'étais comme un chasseur qui guette les inattendus, qui guette ce qui fait la substantifique moelle de l'émotion. Donc j'étais non pas à chercher l'aspect technique et mécanique de la fabrication d'un film, mais vraiment d'essayer de étant moi-même du métier, d'essayer capter et d'expliquer, d'exposer les choix et les défis, encore une fois, de l'artiste. C'est-à-dire, si je devais le comparer à un sportif, l'objectif n'était pas de montrer qu'il fait des coups droits et des coups droits et des coups droits à répétition, mais d'expliquer, d'essayer de montrer comment, tout d'un coup, en plein milieu d'un match, un joueur change de jeu pour s'adapter à une situation imprévue. Voilà. Et Claude a cette particularité, alors que le cinéma est un métier où on fabrique tout, on est les rois des menteurs, le décor, les costumes, tout est mis en place, tout est maîtrisé. Claude est un de ces metteurs en scène qui, lui, rêve de l'imprévu et pousse l'imprévu à rentrer dans ses films pour faire sortir des comédiens quelque chose qui leur échappe. Et mon rôle était, comme lui, guette cet instant. Moi, j'étais là pour essayer de capter et retranscrire cette chose qui est inexplicable, qui est une intuition, une envie, une folie ou une passion. Et comment on arrive à la faire partager aux spectateurs, parce que quand on, finalement, in fine, tous, ce que l'on veut, quand on va voir un spectacle, c'est être ému. Quand on écoute de la musique ou on lit un livre, c'est l'émotion que dégage l'œuvre, que ce soit pour rire ou pour pleurer, c'est cette émotion. Et donc, plus qu'encore une fois d'expliquer les phénomènes techniques, c'était vraiment capter et exposer cette partie irrationnelle où un être humain cherche à faire passer un message aux autres et cherche à sortir des autres des choses imprévues. Et comme autour de Claude, dans le film, on a quand même un casting assez extraordinaire et impressionnant par sa diversité, j'ai eu l'opportunité et la chance d'avoir tous ces camarades qui ont joué le jeu, qui ont compris que je n'étais pas là pour faire un making-of comme on le fait d'habitude, mais que je cherchais bien autre chose. Et ils ont accepté, et ont été bienveillants, et ont joué le jeu jusqu'au bout.
On comprend mieux aussi Claude Lelouch, pourquoi il filme tout le temps, pourquoi il y a toujours la caméra à la main, parce que finalement, Claude Lelouch, quand il tourne, c'est l'homme le plus heureux du monde.
Oui, je ne le vois pas faire autre chose que du cinéma. Et il fait partie de ces cinéastes passionnés qui ont un amour inconditionnel pour le cinéma. Sa particularité par rapport à d'autres, c'est qu'il est libre avec sa caméra, presque comme moi, comme un documentariste où on peut tourner, il a moins besoin de se protéger, de se structurer, ce qui lui permet d'être en réaction immédiate au monde et aux situations qui l'entourent, alors que la plupart des autres cinéastes vont attendre que tout soit maîtrisé. Donc la particularité de Tourner pour vivre, c'est vrai qu'avec un cinéaste comme Lelouch, lui et moi, c'est un peu nitro et glycérine, et le cocktail devient explosif parce que je pense, vous êtes plus à même que moi d'en juger, mais le film, il n'existe pas de film comme ça, et ce film est fait de rebondissements, de surprises, de choses qu'on n'a jamais vues ailleurs.
Et je trouve aussi dans ce film, et vous l'avez dit hier, que vous avez quand même rapidement trouvé votre place. Voilà, il y a Claude Lelouch qui prend quand même beaucoup d'ampleur sur son tournage. Il est vivant, il court partout. Enfin, c'est impressionnant aussi de le voir comme ça, de le voir derrière la caméra. Et vous, voilà, vous êtes à côté de lui. Il y a une confiance aussi qui s'est faite très, très, très vite quand même.
Oui. D'abord, c'est indispensable quand on fait du documentaire que les gens aient confiance en vous et de leur faire comprendre que vous n'êtes pas là pour leur voler des choses personnelles, mais de leur expliquer la démarche dans laquelle vous êtes, ce qui n'est pas toujours compris. Et dans le cas de Claude, on a sans doute beaucoup de points communs au niveau du métier et de la passion. On est deux excités, curieux de la vie, passionné par le cinéma, la caméra, voilà, qui ont aussi une aptitude. Je tourne tout seul, j'ai pas d'équipe quand je tourne, donc tout ça, c'est autant d'éléments qui favorisent ce genre de choses. Et on s'est... Il a fallu que je lui montre au début que j'allais pas perturber l'équilibre de ses tournages et rendre fou tous ses comédiens et tous ses techniciens. Et puis, dès qu'il a compris que j'allais pouvoir m'insérer au sein de ses équipes et me faire oublier, et qu'il a commencé à voir les premières images et les premiers montages de mes premiers tournages, il a très, très vite été rassuré. Et il a adhéré complètement. Et voilà, comme on s'entend et que c'est vrai extrêmement bien et qu'on partage une complicité rare, ça a sans doute aidé à fabriquer ce film comme vous le voyez.
Il y a la confiance, il y a ce travail aussi sur le montage. Quand on tourne un film pendant 7 ans et qu'on le monte, par quoi on commence ? Qu'est-ce qu'on montre en premier chez Claude Lelouch ? Parce que c'est quand même un moment de sa vie dans ce film. C'est un moment de sa vie important. Et du coup, quand on fait le film, quand on est sur le banc de montage, par quoi on commence ?
On commence par des rochers et comme vous l'avez dit, le tournage a duré sur des années, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc il était pour moi évident que la chronologie avait sa place dans la narration parce qu'elle permet de comprendre où va la personne et par quoi elle est passée et de comprendre les embûches et les défis qu'il va... C'est un peu les 12 travaux d'Astérix, hein, si je devais résumer le film aussi. Et donc, j'ai commencé par le début, et le film se raconte de manière chronologique, même si au fur et à mesure du film, on voit on accélère, on revient en arrière, on repart. Bon, au fur et à mesure, je complexifie la narration, mais parce que je pense que le spectateur est dedans, il a compris, on est avec les personnages, comme un road movie. Donc, la difficulté était dans le choix des séquences à garder. C'est beaucoup, beaucoup de montage Et ça a été bon, il y a eu des choix à faire.
Philippe Azoulay est l'invité de Scarpe Ciné pour parler de son documentaire sur Claude Lelouch, Tourner pour vivre. Évidemment, c'est la musique du film Un homme et une femme qui va résonner sur le 94.1. La suite de Scarpe Ciné, c'est dans un instant, alors restez branchés.
Les plus belles mélodies du cinéma sur le 94.1.
Comme chante tout babada bada babada bada, nos cœurs y voient babada babada bada, comme une chance, comme un espoir, comme nous voient babada bada babada bada, nos cœurs y croient babada bada babada bada. Combien de joie, bien des drames, et voilà, c'est une longue histoire. Un homme, une femme ont forgé la trame.
Donne encore cet air si mélodieux de la musique d'Un homme et une femme de Claude Lelouch, tourné en 1966, composé par Francis Lay. Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Deauville, la plage, la caméra qui tourne autour d'eux, on a toutes ces images en tête. Claude Lelouch est à l'honneur justement dans le film Tourner pour vivre, lors du Arras Film Festival. J'ai rencontré Philippe Azoulay, le documentariste.
Lumière sur votre cinéma, sur la plus locale des FM.
C'est un monsieur d'un certain âge qui a la passion et parfois les réactions d'un jeune homme de 18 ans. Voilà, mais dans un corps un peu plus âgé que cela. Donc... Non, mais là, vraiment, moi, je savais ce que je voulais raconter, qui étaient ces processus de création et puis la difficulté de s'exprimer librement dans un monde artistique de plus en plus formaté. Donc, c'était cette exigence et puis cette contrainte qu'il me semblait intéressant de témoigner et cette course contre le temps. Parce que je pense que c'est aussi... Ça fait partie de nos vies collectives. Donc, en parlant de Claude et de moi, en quelque sorte, l'idée était de parler de tout le monde. Et le film part du cinéma, de cette idée de fabriquer et de raconter des histoires. Et en fait, très très vite, on s'aperçoit que l'on parle de la vie, de la mort, de la croyance en Dieu, de la foi, de l'amour et de la solitude des êtres. Donc, parce que je pense que la plupart des créateurs... sont des gens qui ont une crainte de la mort et que si l'on devient créateur, c'est pour défier le temps et se donner une certaine certaine immortalité à travers une photo, un livre, un poème, un film. Donc le film part de quelque chose qui tient du monde rationnel qui est la fabrication d'œuvres artistiques. Et puis au-delà de l'œuvre artistique et de ce qu'on y met dedans, il y a cette quête de sens. C'est aussi une aventure de Tintin, on pourrait la voir comme ça, notamment quand on part en Inde. On part avec Tintin, alors, et on découvre quelqu'un qui découvre aussi des choses du monde, de la vie, de ses croyances, et qui le nourrit pour son film.
Malgré son âge, on voit encore dans son regard, dans son cinéma, toute une jeunesse finalement qui n'a pas perdu.
Oui, comme je vous disais, c'est un monsieur de 84 ans, c'est un monsieur dont le corps a 84 ans et dont la tête a entre 18 et 22 ans. Moi, je suis un peu plus jeune, mais on est un peu pareil, donc c'est peut-être une des raisons qui font qu'on s'entend si bien.
Ce film, lui, le dit très bien, Claude Lelouch, il veut montrer ses parfums de vérité, et il le dit plusieurs fois dans le film. C'est ça aussi. Vous avez axé aussi ce film sur ça, sur sa réflexion, sur sa quête de vérité, d'une vérité.
Oui, si tant est qu'il y ait une vérité établie. Mais c'est cet équilibre entre le rationnel et l'irrationnel, entre le désir de fabriquer un film qui plaise et qui fasse des entrées, donc c'est extrêmement rationnel, et puis ce désir de toucher du doigt la vérité avec un grand V, et qui est donc d'essayer de faire une œuvre artistique qui va résister au temps et de faire mieux. Et là, on est dans l'irrationnel. Et dans le cas de Claude, c'est quelqu'un de croyant en plus, qui croit aux signes, à des énergies, à plusieurs vies, à toutes sortes de choses comme ça. On est dans ce monde où on bascule d'un monde extrêmement rationnel, combien ça coûte, combien ça rapporte, et puis de l'autre, un monde où on a quelqu'un d'extrêmement curieux et puis irrationnel.
Les uns et les autres, les uns ou les autres, si chacun
irrationnel, justement, il le montre par la musique, et vous rendez hommage aussi à Claude Lelouch avec la musique de Francis Lai, et en intégrant aussi le groupe C2C, groupe électro. C'est intéressant aussi, même dans votre film, d'allier le cinéma de Claude Lelouch, la musique de Claude Lelouch, de ses films, et aussi la jeune génération avec C2C. Pourquoi choisir ce groupe pour remixer, entre guillemets, les chansons?
C'est pas la musique de Claude Lelouch, c'est la musique de Francis Lai, qui était un des plus grands compositeurs de cinéma français. Enfin, c'est un des plus grands compositeurs français, mondialement connu et reconnu. Et en préparant Tournée pour vivre, je savais qu'il fallait que la bande son soit dans la tradition et dans la couleur des films de Claude. Donc avec la musique de Francis, et en même temps je voulais ma propre identification sonore. Et puisque je portais un regard sur le cinéma de Claude, il m'a paru tout de suite évident qu'il serait judicieux d'apporter une oreille ou un regard donc tout aussi moderne et sur la musique qui accompagne les films de Claude. Et donc très très vite, je me suis... Il m'est apparu évident que de proposer de remixer les morceaux de Francis était une occasion inespérée. Et après plusieurs jours de réflexion, après avoir envisagé d'autres musiciens ou d'autres groupes célèbres, mon choix s'est porté sur C2C de manière très très naturelle et évidente. Il se trouve que les quatre DJ qui sont des gens extrêmement charmants et simples et directs étaient enthousiastes tout de suite. Ils adoraient les musiques de Francis et puis le projet leur semblait pertinent. Et en découvrant Tournée pour vivre, ça sera aussi l'occasion de découvrir une bande-son totalement inédite, puisque depuis plusieurs années, les C2C ne jouent pas splittés, mais mènent chacun leur carrière. Là, les gens vont découvrir un grand nombre de morceaux totalement inédits des C2C. Et c'est aussi une des couleurs du film où la musique est extrêmement présente, le film est rythmé. J'ai essayé d'apporter mon énergie et ma patte.
Dernière question, finalement, ce film, si c'est un cycle de la vie, on part sur le film Salon Thème avec 1 plus 1, et puis on termine finalement sur la suite de Un homme et une femme. Et donc, Un homme et une femme et la suite, finalement, c'est la rencontre avec vous, avec Claude Lelouch, et la suite, finalement, ça permet de terminer votre film. C'est ça, c'était important pour vous de terminer, et c'était une demande aussi de Claude Lelouch de terminer sur ce film.
Lorsqu'on a commencé le tournage, Les plus belles années d'une vie n'étaient pas prévues au programme. Donc l'idée était de suivre Claude dans son défi de ses 3 derniers films en 3 ans. Rien ne s'est passé comme prévu. Ces 3 films se sont transformés en 7 films. Et le dernier que j'ai suivi est arrivé comme une surprise inattendue, inespérée. Évidemment qu'il n'avait jamais été envisagé ni par lui ni par moi. Et Claude a insisté pour que je vienne sur le tournage des plus belles années d'une vie, parce que, il a eu bien raison, c'est une boucle historique, cinématographique, et puis pour Tourner pour vivre, pour ce film, pour l'histoire, ce film commence à un moment donné et puis se termine comme en bouclant sa propre boucle. Et donc c'est aujourd'hui pour moi une évidence, mais au départ il n'était pas du tout prévu, et je ne pensais pas passer autant d'années et suivre autant de films, parce que à chaque fois ce n'est pas juste un tournage, c'est l'idée, la préparation, et puis le financement, et puis les galères du casting, et puis donc c'est à chaque fois, chaque film c'est 1 an à 2 ans. Donc comme Claude a plusieurs projets en même temps, ce qui explique qu'il fait 7 films pratiquement cette année, en 9 années en l'occurrence, c'est une façon, et Les plus belles années d'une vie, ce n'est pas la suite d'Un homme et une femme, puisqu'il y en a un autre au milieu qu'il a fait, c'est vraiment le dernier volet, c'est le troisième et dernier volet de ce couple mythique du cinéma. Et objectivement, c'est difficile de parler du cinéma de Lelouch sans parler d'Un homme et une femme. Que ce soit votre film préféré ou pas, c'est un film majeur, et ce couple, Anouk Aimée et Trintignant, nous a tous, à un moment ou un autre, a traversé nos vies. Donc ça me semblait, pour l'histoire et pour l'aventure, comme une cerise sur le gâteau à la fin, de pouvoir terminer avec eux.
Et on découvre autrement Claude Lelouch avec ce très beau film que vous venez nous présenter ici au Arasum Festival, Tournée pour vivre. Il le sort quand ?
Le film sort le 16 mars 2022, si tout va bien d'ici là. Mais voilà, il va sortir en salle sur les meilleurs écrans de France le 16 mars 2022. Pour nous tous, pour Claude et moi, et puis tous les gens qui participent à ce film, c'est vrai que vous avez vu le casting impressionnant. On en est tous très 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 fiers, parce qu'on est parti dans cette aventure avec beaucoup d'ambition mais sans prétention, et à l'arrivée on se regarde tous stupéfaits du chemin parcouru, et puis de ce que provoque le film sur les spectateurs, qui sortent tous à chaque fois galvanisés. Je pense qu'on repousse l'âge de la retraite, on donne envie aux gens de faire des choses, on donne le goût de vivre des expériences, et voilà, et c'était pas prévu, mais j'ai fait un feel good movie, comme on dit, voilà, un film qui redonne le moral et la pêche, donc on en est tous très très fiers.
Merci beaucoup pour cette interview, Philippe Azoulay, Tournée pour vivre, merci à vous.
Merci.
Merci à Philippe Azoulay, Tournée pour vivre à l'affiche le 16 mars prochain, dans toutes les belles salles évidemment. Pause musicale avec Nicole Croisi qui interprète la BO de 1 plus 1. Je rejoins Carole en studio ensuite pour son top flopcorn.
Des terriers au beffroi, le cinéma du Nord s'invite chez vous sur Scarpe Sensé.
Un plus une. Un plus une. Un plus une, c'est l'addition de tellement de soustractions. C'est tout l'art de l'harmonie sur une petite mélodie. Un plus une, c'est la rencontre de nos tempos qui s'affrontent, qui fera la voix du haut sur cette musique en duo. You're my dream, plus que t'imagines. Pour toi, je donnerai tout Gershwin, tout Mozart, tout Bach, tout Armstrong. Tu seras ma plus beautiful song. Féminine comme une clé de sol, doobie-doobie-doo on my soul. Toi le divan, moi la diva, va savoir que sera, sera. Un plus une, qui peut faire mieux? Note à note, on joue le jeu du chat et de la souris. J'adore ça quand tu souris. Un plus une, quand tu m'entraînes, c'est du singing in the rain. C'est du da-ba-da-ba-da. Pas besoin de mots pour ça. Un plus une, c'est l'addition du hasard, d'une émotion, pour que tout commence enfin par un baiser à la fin. Par un baiser à la fin.
En 2015, Claude Lelouch réalise 1 plus 1 avec Jean Dujardin et Elsa Zimmerstein. Les coulisses du film sont à retrouver dans le très beau documentaire sur Claude Lelouch, Tourné pour vivre, en salle dès le 16 mars prochain. Et tout de suite, je rejoins Carole dans les studios de Radio Scarpe Sensé pour son dernier top flop corn de l'année.
Qui est au top? Qui fait un flop? La cinéphile Carole vous emmène dans les salles obscures. Top flop corn.
Eh bien, bonjour Carole.
Bonjour à tout le monde.
Et avec toi, on va aller du côté des salles obscures pour découvrir les films en ce moment à l'affiche avec ton regard.
Alors, dans les salles obscures aussi, mais dans ma petite intro, on parlera aussi du plus petit écran. Alors, le cinéma parfois rejoint la réalité. Il y a quelque temps, en 2018, j'ai découvert Chilly Gonzalez, pianiste hétérodoxe, inclassable, dans un documentaire « Shut up and play the piano ». Eh bien, grâce à ce documentaire, j'ai pu aller en concert, donc voir cet ovni musical le 20 novembre au Nouveau Siècle. C'était divin. Donc, je redis, une fois de temps en temps, laissez-vous porter par des documentaires, des choses que vers lesquels vous n'iriez pas forcément et vous allez découvrir des univers. Et là, j'ai découvert l'univers de Chilly Gonzalez. Toujours sur arte.tv, en ce moment, il y a un super documentaire de Jean-Gabriel Perriot qui s'appelle « Retour à Reims, fragment ». Alors en fait, Jean-Gabriel Perriot met en image des archives de l'INA sur les mots de Didier Héribon. Didier Héribon est un sociologue, philosophe, et il a écrit Retour à Reims sur, en fait, son transfuge de classe. Et donc, il y a l'histoire du monde ouvrier et le texte lu de Didier Héribon. Donc, cette histoire douloureuse et politique des ouvriers de France, vraiment très, très intéressant. Donc, du cinéma à la réalité. Il n'y a parfois qu'un pas à franchir, donc ça c'est mon petit intro. Et maintenant, Joris va nous lancer la musique et je vous signale, chers auditeurs, qu'il ne sait absolument pas, il n'a absolument pas trouvé quels étaient les films. En off, il m'a donné un truc, mais ce n'était pas bon.
Donc, c'est la découverte jusqu'au bout et donc on part avec cette première chanson sur Radio Scarp Sensé.
Alors, c'est étonnant, hein, d'habitude je n'utilise pas de chansons autres que de chansons françaises, mais là c'est pour Les Magnétiques, en fait, film de Vincent Maël Cardona. Philippe Timothée Robard, à l'âge du service militaire, il espère se faire réformer P4. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que c'est que réformer P4. Nous sommes en 1981 et c'est l'élection de François Mitterrand, le monde devait changer. Au lieu d'être réformé, il part en Allemagne, à Berlin, et il a l'occasion de faire autrement de la radio. En effet, dans son petit village avec son frère et ses potes, ils animaient une radio pirate à l'époque. Son passage à Berlin le fait mûrir, lui permet d'envisager une vie autre que celle de la reprise du garage de son père. C'est l'époque des cassettes, du Walkman Sony, des bandes magnétiques, des montages sonores. J'ai fortement pensé à notre ami. Jérôme,
évidemment.
Donc, toute une époque. Je vous conseille ce film.
Eh bien, Les Magnétiques, on a passé d'ailleurs une chanson du film lors des précédentes émissions. On poursuit toujours en musique avec un groupe de la région. C'est Lénine Renaud.
Oui, et donc pour le film Orange Sanguine, alors il y a de la danse dans ce film. Alors ce film de Jean-Christophe Meurice, d'1h42. En fait, je suis venue dans la salle par hasard, sans même regarder le pitch, sans même regarder l'affiche. C'est le seul film qui pouvait rentrer dans ma plage horaire ce jour-là. Et l'affiche nous dit « Attention, comédie méchante ». Et lorsqu'elle a sorti, je me suis rendu compte que les chiens de Navarre y étaient pour quelque chose, tout s'est éclairci. Alors, il y a un ministre de l'économie, tout à fait véreux. Il y a un assistant avocat, un peu sur une autre planète. Il y a une jeune fille de 16 ans qui demande à sa gynéco, Blanjardin, comment gérer sa première fois. Un couple de seniors, les parents de l'avocat, endettés jusqu'au cou et qui pensent rembourser leurs dettes en étant premier à un concours de rock. Tout ce gentil petit monde se croise par hasard, c'est le destin, dirait-on. C'est un portrait décalé de la France d'aujourd'hui. Ah, j'ai oublié, il y a aussi un psychopathe qui est un chien. Ça a toute son importance.
Il ne faut pas l'oublier.
Oui. Non, sincèrement, il ne faut vraiment pas l'oublier. Bref, tout ça va de travers, mais c'est quand même jouissif, normal, avec les chiens de Navarre.
Donc le film, rappelle-nous.
Orange Sanguine.
Orange Sanguine. Donc, prochaine chanson.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains.
Alors, c'est pour Une vie démente, le film d'Anne Sirot et de Raphaël Balboni, d'une durée d'1h27, donc très très raisonnable. Alex et Noémie, Jean le Pelletier et Lucie Debay, souhaitent avoir un enfant, mais leur projet est compromis, car Suzanne, Jo de Sûr, la mère d'Alex, commence doucement mais sûrement à perdre la tête. C'est un sujet grave, traité avec un humour intelligent, comme savent le faire très souvent les Belges. Grâce à ce film, j'ai appris qu'Alzheimer se dit démence sémantique. La mise en image est très originale, dans les couleurs, dans les décors. Pas de déprime pour parler d'une situation délicate.
C'est un film donc à voir. C'est que des tops aujourd'hui, Carole.
Oui, que des tops.
Que des tops. Donc, on poursuit avec Angèle.
Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
Balance ton quoi.
Ah bah oui, alors qu'est-ce qui balance? C'est pas du MeToo, mais c'est pour Debout les femmes. Quand on additionne François Ruffin et Gilles Perret, on obtient un road movie parlementaire sur les pas des invisibles, ceux des métiers du lien. François Ruffin, en tant que responsable de la mission parlementaire sur les métiers du lien, se voit contraint de faire équipe avec Bruno Bonnel, député En Marche. Leur duo sur le papier permet d'envisager de sévères passes d'armes, mais le principe de la réalité les rattrape. La réalité du terrain, la réalité du terrain en temps de Covid, de confinement, de couvre-feu. Si vous n'avez pas compris le mouvement d'humeur du député François Ruffin lorsqu'il vote contre sa proposition de loi, regardez ce documentaire qui montre comment cette loi a été vidée de ses points essentiels. Un documentaire militant qui montre que le combat est loin d'être terminé.
Et c'est que le début. On reste sur ce titre d'Angèle pour ce dernier top.
Tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'écris rien que pour toi, le plus beau des poèmes.
Alors c'est pour film vu à l'Arras Film Festival, Les choses humaines d'Yvan Attal, un film de 2h18, mais je ne les ai pas vus passer du tout. Issu du roman de Karine Thuil en 2019. Alors, le film est en 4 chapitres. Le chapitre Alexandre, le fils, le chapitre Mila, la fille. 30 mois plus tard, ce qui se passe, et les plaidoiries. Donc tout ça pour traiter un sujet complexe, polémique, le viol d'une jeune fille. Je vous invite à écouter en podcast ce que Pierre Arditi dit du film et de son rôle. C'est dans « On aura tout vu » du 27 novembre. Il fait vraiment le tour de la question, où il a vraiment des paroles sur la notion de mépris de classe. On va pas, à un moment donné, il dit, quand il est le père au tribunal, il dit « On va pas se froisser pour 20 minutes d'égarement ». On a bien compris. Donc sincèrement, pour ce film, que l'on a vu à l'Arras Film Festival, on a échangé avec quelques jeunes présents et certains disaient que cette histoire les faisait réfléchir. Est-ce qu'un jour, sans le vouloir, ils ont été un salaud? Ça, c'est une grande question. Un film qui doit être vu pour pouvoir en débattre.
Un film pour débattre, justement. Voilà. Très, très beau film, en tout cas.
Tout à fait.
Pour vu au Arras Film Festival, effectivement, je partage entièrement ton avis. Merci Carole, on passe à l'affiche.
Avant-première, débat, événement, à l'affiche dans votre cinéma.
Eh bien, rendez-vous au Majestic de Douai ce 22 décembre à 14h pour le film Maison de retraite, avec la présence exceptionnelle de Kev Adams. Maison de retraite, c'est un film qui va sortir le 23 février prochain de Thomas Gilou. Pour histoire, afin d'éviter la case prison, Milan, 30 ans, est contraint d'effectuer 300 heures de travaux d'intérêt généraux dans une maison de retraite, les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer, mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui, lui, apprennent chacun leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milan découvre que l'établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d'organiser une grande évasion et il n'est pas au bout de ses peines. Donc c'est un film notamment avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost. Et puis dans le casting aussi, on l'a reçu il y a quelques années, c'est Marianne Garcia.
Oui, voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. J'aimerais ajouter une autre information. C'est au Mégarama, le samedi 11 décembre à 16h. Popcorn Reborn vous propose Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, n'oubliez pas pour cette saga, le premier épisode donc, de cette saga.
Il y a 20 ans. Sortez Harry Potter, on s'en souvient tous. C'est le club de fin de Scarp Ciné. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et radioscarpsensé.com. Merci Carole.
Pas de quoi.
Et les redifs, c'est le samedi à 13h10, les lundis à 10h10 et les mercredis à 15h. Et puis n'oubliez pas,
ici ou là, allez au cinéma.
Scarpe Ciné, séquence 11. Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarpe 106, ça tourne.
Et action!